Chapitre 30. La douleur. Yonalina et Nathan Pollock se garent sur Hornsgatan et jettent un coup d'œil à une photo de très mauvaise qualité de Daniel Marklund. Après avoir quitté la voiture, ils traversent la rue au milieu de la circulation et entrent par la porte d'un petit théâtre. Theater Tribunalen est une compagnie de théâtre indépendante qui définit le prix des billets en fonction des revenus de chaque spectateur. Le théâtre a monté des pièces allant de l'Orestie au Manifeste du Parti communiste. Yona et Nathan descendent d'un pas rapide le large escalier qui mène jusqu'au guichet, faisant également office de bar. Une femme aux cheveux raides et noirs, qui porte un anneau en argent dans le nez, les accueille avec un sourire. Ils lui répondent tous deux par un hochement de tête amical, en poursuivant leur chemin sans un mot.
« Vous cherchez quelqu'un ?»
crie-t-elle lorsqu'il commence à monter l'escalier en métal.
« Oui, » répond Pollock à voix basse.
Ils entrent dans un bureau désordonné, meublé d'une photocopieuse, d'un bureau et d'un tableau d'affichage. Devant un ordinateur est assis un homme maigre aux cheveux hirsutes, une cigarette éteinte au coin de la bouche.
« Salut Richard !» dit Pollock. « Vous êtes qui ?»
demande l'homme distraitement en reportant aussitôt son attention sur l'écran. Ils poursuivent jusqu'aux loges des comédiens. Ils passent devant des costumes soigneusement pendus, une table de maquillage et une salle de bain. Un vase contenant un bouquet de roses orne l'une des tables. Pollock regarde autour de lui puis désigne la direction à suivre, une porte en acier sur laquelle est inscrit « Centrale électrique ».
« C'est censé être ici », dit Pollock. « Dans le local électrique d'un théâtre ?»
Pollock ne prend pas la peine de répondre et se contente de crocheter rapidement la serrure. Il regarde à l'intérieur de la petite pièce envahie par des compteurs électriques, des petits placards contenant des fusibles et un tas de gros cartons. La lampe du plafond ne fonctionne pas, mais Yona grimpe par-dessus les cartons, piétine de vieux costumes et trouve une porte dissimulée derrière des rallonges électriques accrochées au mur. Celle-ci mène à un couloir au mur en béton. Nathan le suit. L'air vicié semble pauvre en oxygène. Il règne une forte odeur de déchets mêlée à celle de la terre humide. Une musique lointaine leur parvient, mais ils ne peuvent pas encore en distinguer le rythme. Un tract représentant le leader de la guérilla marxiste Che Guevara avec une mèche allumée qui sort de sa tête gît à terre.
« La brigadaine se cache ici depuis quelques années », dit Pollock à voix basse. « J'aurais dû apporter des petits gâteaux. Promets-moi de faire attention. Je crains seulement que Daniel Marklund ne soit pas là. Il l'est. Il semble qu'il y soit presque toujours. Merci de ton aide, Nathan. Il vaut peut-être mieux que je t'accompagne à l'intérieur, non? Tu n'as que quelques minutes lorsque la CEPO débarquera, ça risque d'être dangereux. »
Les yeux gris de Yona semblent s'étrécir et il dit d'une voix douce
« Je passe juste dire un petit bonjour. »
Nathan retourne vers le théâtre en toussant et referme les portes derrière lui. Seul dans le couloir désert, Yona reste immobile un moment. Il prend son arme, vérifie que le chargeur est plein et la remet dans la gaine. Il avance jusqu'à la porte en acier située au bout du couloir. Elle est fermée et il perd quelques précieuses secondes à crocheter la serrure. Quelqu'un a gravé « Brigaden » en toutes petites lettres sur la porte bleue. L'inscription ne fait pas plus de 2 cm. Yona appuie sur la poignée et ouvre délicatement la porte. Il est accueilli par une musique forte et stridente. On dirait une version remixée de Machine Gun de Jimi Hendrix. La musique couvre tous les autres bruits. Les notes lancinantes de la guitare suivent un rythme onirique, ondulant. Yona referme la porte derrière lui et avance à petite foulée jusqu'à un local où sont entassés pêle-mêle jusqu'au plafond des livres et de vieux journaux. L'obscurité est quasiment complète, mais Yona comprend que les piles forment dans la pièce une sorte de labyrinthe conduisant à de nouvelles portes. Il traverse le passage d'un pas rapide, est soudain éclairé par une pâle lueur et continue d'avancer jusqu'à ce que le couloir se divise en deux. Il prend à droite, puis se retourne subitement. Il pense avoir vu quelque chose, senti un mouvement furtif dans son dos. Peut-être juste une ombre qui a disparu à l'extrémité de son champ de vision. Il n'en est pas certain. Yona rebrousse chemin jusqu'à l'intersection des deux couloirs et tente de distinguer quelque chose dans l'obscurité.
Un cordon retenant une ampoule vacille au plafond. Mêlé à la musique, Yona perçoit soudain un hurlement. Le cri assourdi d'un être humain lui parvient malgré l'épaisseur des murs. Il s'arrête, recule de quelques pas et observe l'étroit passage où une pile de magazines s'est renversée. Yona a mal à la tête. Il se dit qu'il devrait manger, qu'il aurait dû apporter quelque chose. Un ou deux carrés de chocolat noir auraient fait l'affaire. Il marche sur les magazines éparpillés au sol et parvient à un escalier en colimaçon menant à l'étage inférieur. Une odeur de fumée douceâtre languit dans l'air. Il se tient fermement à la rampe et tente d'arriver en bas aussi vite que possible. Malgré ses efforts, l'escalier en métal grince sous son poids. Il s'arrête sur la dernière marche devant un rideau en velours et pose alors la main sur son pistolet. Ici, la musique est plus faible. Dans l'entrebâillement du rideau, il distingue une lumière rouge. L'air est saturé de cannabis et de transpiration. Yona tente d'apercevoir quelque chose, mais son champ de vision est très restreint. Dans un coin est posé un clown en plastique, une ampoule rouge en guise de nez. Yona hésite quelques secondes, puis s'introduit dans la pièce. Son pouls s'accélère et son mal de tête s'intensifie lorsqu'il balaie la pièce du regard. Un fusil de chasse double canon est posé sur le sol en béton poli. Il y a aussi un carton ouvert rempli de cartouches de balles slug, de lourdes balles en plomb qui provoquent de grandes déchirures dans la chair. Un homme nu est assis sur une chaise de bureau. Il fume les yeux fermés. Ce n'est pas Daniel Marklund. Une femme blonde au sein nu est accroupie sur un matelas le dos au mur, une couverture militaire autour des hanches. Elle croise le regard de Yona, lui envoie un baiser et boit tranquillement une gorgée de bière dans une canette. Un nouveau cri résonne depuis la seule issue de la pièce. Yona ne les lâche pas du regard lorsqu'il ramasse le fusil, dirige la bouche du canon vers le sol et appuie dessus avec son pied de façon à plier l'arme. La femme pose sa canette de bière et se gratte distraitement l'aisselle. Yona repose le fusil avec précaution, puis continue à avancer dans la pièce, passe devant la femme sur le matelas et pénètre dans un couloir dont le plafond bas est constitué d'un treillis posé sur de la laine de verre jaune. Une lourde odeur de cigare se répand dans l'air. Le faisceau d'une lumière très puissante est orienté droit sur lui et il tente de le masquer de sa main. De larges bandes de plastique industriel pendent au bout du couloir. Yona est ébloui et ne réussit pas à voir vers quoi il s'avance. Il devine seulement des mouvements et entend une voix qui résonne, chargée d'angoisse et de peur. Soudain, tout près de lui, quelqu'un pousse un cri terrifiant. Il semble venir du plus profond de la gorge et est suivi par une respiration soutenue et haletante. Yona avance rapidement à pas feutrés, sort du faisceau lumineux et distingue soudain l'intérieur de la pièce derrière le plastique épais. Des voiles de fumée flottent dans l'air immobile. Une petite femme musclée qui porte une cagoule, un jean noir et un t-shirt marron se tient devant un homme en caleçon et chaussettes. Il a le crâne rasé et les mots « suprématisme blanc » tatoués sur le front. Il s'est mordu la langue et le sang coule sur son menton et son cou jusqu'à son gros ventre.
« Pitié !» chuchote-t-il en secouant la tête.
La femme tient un cigare allumé dans sa main. Soudain, elle s'approche de l'homme et appuie la braise contre le tatouage sur son front. L'homme hurle, faisant trembler le gras de son ventre et ses seins flasques. Une tache sombre se répand sur son caleçon bleu et l'urine coule le long de ses jambes nues. Yona a dégainé son pistolet. Il s'approche d'un entrebâillement entre deux bandes de plastique et tente de repérer s'il y a d'autres personnes dans la pièce. Il ne parvient pas à distinguer s'ils sont seuls, mais se prépare et ouvre la bouche pour crier. Soudain, il voit son pistolet tomber au sol. L'arme émet un cliquetis en rencontrant le béton et atterrit près du rideau en plastique. Il regarde sa main, perplexe. Elle tremble. En un instant, il est assailli par une douleur insoutenable. Sa vision se trouble. Il ne peut réprimer un gémissement et doit prendre appui contre le mur. Il sent qu'il est sur le point de perdre connaissance, mais il entend encore les voix résonner derrière le plastique.
« Crache le morceau !» crie la femme au cigare. « Qu'est-ce que tu lui as fait, bordel de merde ?»«
Je me souviens pas !» gémit le néo-nazi.
« Qu'est-ce que tu as fait ?»«
J'ai été vache avec un type. »«
Les détails ?»«
Je lui ai cramé l'œil. » »«
Avec une cigarette. Un petit de 10 ans. »
Oui, mais je...
Quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait?
On l'a suivi de la synagogue jusqu'au...
Yona ne se rend pas compte qu'il arrache un extincteur du mur. Il perd toute notion du temps. Le monde disparaît autour de lui. Il n'existe plus que la douleur dans sa tête et un sifflement aigu dans ses oreilles.